avec nous pour mieux comprendre comment le gouvernement finance la santé et comment ça joue entre le gouvernement du Canada et les provinces, notre chroniqueur juridique, Laurent Trépanier-Capistran. Oui. Est-ce que tu étais trépignant quand j'ai dit ça?
Mais je suis trépignant à chaque fois que je viens à Visez-Voix, en fait.
Bon, tu es aussi agent de défense de droit chez Execo. Bonjour, Laurent. Donc, je te lance avec la première question. On assiste depuis l'automne à un genre de bras de fer entre le Dr Barrette, ministre de la Santé au Québec, et la ministre fédérale de la Santé. Du point de vue des juridictions, là, les responsabilités des deux côtés, qu'est-ce qui se passe, Laurent?
Bien, tout d'abord, la première chose à dire, c'est de dire en fait que la santé est une compétence législative qui est réservée aux provinciales. C'est-à-dire qu'il y a uniquement les provinces qui peuvent intervenir à l'aide de lois. Et là, ce qui peut paraître à première vue un petit peu mélangeant, c'est qu'on a des lois fédérales qui traitent de la santé. Comment ça se fait, en fait? Bien, c'est assez simple lorsqu'on prend le temps de le décortiquer. C'est que le fédéral trouve le fondement législatif là, de son action, dans le fond, où il se permet de faire des lois en matière de santé sur la base de son pouvoir de dépenser, qu'on appelle.
Oui, ben, on dit ça souvent d'ailleurs, le pouvoir de dépenser du fédéral, même dans les compétences provinciales.
Tout à fait, c'est okay. Ça. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pouvoir fédéral de dépenser, autrement dit, c'est des conditions qui sont associées à un transfert d'argent. C'est que le fédéral dit aux provinces, je vais vous donner un montant d'argent pour que vous puissiez financer votre système de santé, mais vous devez respecter certaines conditions si vous voulez toucher cet argent-là. Et ces conditions-là, pour la plupart, vont se retrouver dans la loi qu'on appelle la loi canadienne sur la santé.
Et donc, y a-t-il des belles choses qu'elle dit, cette loi-là, qui peuvent nous aider parfois?
En fait, il y a beaucoup de grands principes comme l'universalité, la gratuité des services assurés, donc qui sont définis dans cette loi-là. Donc ça, elle élabore finalement des grands principes que doivent respecter les provinces. Évidemment, les provinces pourraient agir seules si elles le désiraient, mais dans la réalité, en fait, c'est que c'est une dépense qui est tellement importante, le système de santé, comment il est conçu actuellement, que c'est des négociations qui ont lieu.
La plupart du temps, c'est la moitié du budget d'une province.
Tout à fait, exactement. Ouais. Grosso modo, dépendamment des provinces et du système de santé qu'elles ont. Faut dire, en fait, que ce fameux bras de fer-là, entre Barrette et, en fait, on pourrait même dire les provinces en général et le fédéral, pour l'instant, ça se situe davantage sur un terrain qui est politique. Okay. La stratégie fédérale actuelle semble être de conclure des ententes qui sont bilatérales avec les provinces. Ce que je veux dire par là, c'est que d'isoler les provinces et de les prendre une à une et de conclure des ententes, c'est ce qui semble...
Diviser pour mieux négocier, mettons?
C'est ce que plusieurs analystes politiques disent. Et déjà, il y a des ententes avec les provinces maritimes, entre autres, qui sont sur le point ou qui ont été conclues. La dernière entente qui a été refusée par les provinces, ça se situait autour de 3,5% d'augmentation du budget par année.
Donc, est-ce que c'est assez, ça? Est-ce que vous avez vu que les gens étaient satisfaits d'une augmentation comme ça?
En fait, les provinces sont insatisfaites ce qui est l'argument, finalement, qu'elles mobilisent pour étayer leur insatisfaction, bien, c'est que sous Paul Martin, donc il faut revenir un petit peu en arrière, sous Paul Martin, qui était le gouvernement libéral avant Harper.
Donc, ça fait peut-être 15 ans, là.
Exactement. On avait une augmentation de 6% là, ce qui est quand même considérable.
Ah ouais.
Et là, avec l'arrivée du règne conservateur et notamment de Flaherty, quand il était ministre des Finances, eh bien là, on avait eu une réduction unilatérale, hein, seulement de la part du fédéral, vers un 3% à l'an ou l'indice de la croissance économique s'il était supérieur à 3%.
Okay. Donc, mais c'est presque la moitié qu'on a perdu. Donc.
Oui, exactement. Mais les libéraux de Trudeau semblent vouloir surfer un peu sur ce qui a été établi par leurs prédécesseurs conservateurs.
Finalement. OK. Bon, et ça a des impacts, évidemment. Il manque d'argent. Sauf que, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Pourquoi, par exemple, Barrette n'aime pas trop qu'on met comme obligation d'investir dans le soutien à domicile ou la santé mentale? Est-ce que vous...
Bien, en fait, historiquement, le Québec et plus largement, peut-être moins virulemment, les provinces jalousent leurs compétences. Hein?
Ouais.
Ils veulent pas qu'il y ait d'ingérence fédérale dans les compétences. Et donc, on tombe
même
sur
pour un libéral comme Barrette?
Même comme un libéral comme Barrette et qui doit quand même soigner une base politique hein, qui est québécoise. On sait que l'indépendance et l'autonomie, du moins, dans les champs de compétences provinciales, c'est points politiques.
Parce que même quand on n'est pas souverainiste, il y a une petite tendance nationaliste. Là. On pense à la CAQ et tout ça. Donc,
tout à fait.
pour protéger nos compétences, on serait prêt à refuser de l'argent. J'exagère quand je dis ça.
Ben, d'après moi, on n'est pas prêt à refuser de l'argent, mais on est prêt à négocier ferme.
Okay.
Je pense qu'on n'en est pas rendu là dans le bras de fer, mais bon, on sent que les négociations ont durci le ton.
OK. Donc, il nous reste un peu de temps. Est-ce qu'on parle de soutien à domicile ou on parle de frais accessoires?
Allons-y avec les frais accessoires.
Allons-y avec les frais accessoires.
Ça s'en vient. On parle du 26 janvier.
Ah ben oui, c'est tout proche.
Donc, c'est tout près. Aujourd'hui, on est le 17. Donc, dans moins de 10 jours, les frais accessoires vont être abolis.
Mm-hmm.
Officiellement, le règlement va entrer en vigueur. Donc, pour bien comprendre la dynamique qu'il y a eu entre cette décision-là du gouvernement et... le recours qui a été intenté par l'AFADOC.
Oui, disons la Fédération des centres d'âge d'or.
Tout à fait. Donc, il faut dire quelques mots sur ce recours-là. C'est un recours en mandamus qui a été pris par l'AFADOC. Un recours en mandamus, très rapidement, ça vise à forcer une personne qui occupe une fonction étatique ou un organe étatique à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose.
Ah ouais. Donc, on peut forcer le gouvernement par le biais de ce recours judiciaire-là.
Exactement. Et c'est ce que l'AFADOC a tenté de faire avec l'aide de Maître Ménard, qui est un avocat bien connu dans le domaine de la santé.
Mm-hmm.
Et donc, pour forcer la ministre Philpott à faire appliquer la loi canadienne sur la santé qui proscrit finalement les frais accessoires, qui interdit les frais accessoires.
C'est quoi le principe de la loi canadienne qui empêche ou qui empêchait que les frais accessoires soient acceptables?
Bien, c'est, comme je le disais tantôt, la gratuité, l'universalité,
okay.
Et il y a des dispositions plus pointues, plus spécifiques sur l'interdiction de surfacturer au niveau des services qui sont assurés. Donc, c'est ce que la FADOC visait à faire, autrement dit. Et là,
mais ce qu'il faut dire, par exemple, les frais accessoires, là, pour que les gens comprennent, c'était ce genre de frais qu'on pouvait avoir dans les cliniques pour un traitement de virus à l'azote ou
je vous donne un exemple,
toutes sortes de crèmes.
On va chez l'ophtalmologiste, on a besoin d'une goutte dans l'œil pour préparer une intervention. Par le passé, on pouvait vous charger 5, 10, 15 $ par exemple pour ces fameuses gouttes-là.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, en fait, le 26 janvier, ces frais-là devraient être retirés, interdits. On ne devrait plus vous les charger sur présentation de votre carte d'assurance maladie.
Bien. Et donc, en concluant peut-être en quelques secondes, c'est comment ça va finir ce bras de fer-là, vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de groupes qui vont utiliser le fédéral pour assurer la gratuité? Comment vous voyez ça, hein?
Mais en fait, ça semble être la tendance que la FADOC a choisi de passer par la porte fédérale pour forcer le gouvernement provincial à agir dans ça. Et évidemment, ça s'inscrit dans le cadre de négociations autour de cet accord-là, ce qu'on traitait au début de la chronique.
Donc, je dis ça, mais ça va peut-être influencer quelques groupes.
On
va observer ça.
On observe, on garde l'œil ouvert.
On se reparle, Laurent Trépanier-Capistran.